Ensemble, ici, Radio Livre, la radio des initiatives.
Bonjour et bienvenue sur Studio Spécial Oiseau, en direct et en public depuis le marché des producteurs d'épiles. Alors je vois que l'ambiance se calme tout doucement pour entendre nos experts en ornithologie. Voilà, alors aujourd'hui on a décidé de parler un petit peu protection des oiseaux et je vais laisser la parole à Marie qui va nous expliquer pourquoi on a décidé de se poser cette question aujourd'hui.
Eh bien oui, l'oiseau, c'est un être qui au quotidien est menacé hein, par tout ce que vous pouvez imaginer. On vit dans un monde difficile et donc c'est un petit animal qui a besoin de porter attention au quotidien. Et d'autant qu'ici, on est dans le parc naturel régional des Baronnies Provençales et on a un superbe patrimoine à ce niveau-là avec les vautours, les gypaètes et tutti quanti. Et en plus, la saison de migration a repris, donc c'est l'occasion de connaître les oiseaux qui sont à portée de vos fenêtres. Donc on a plusieurs invités ce soir-là qui vont se présenter et présenter leur structure. Et je passe la parole au premier d'entre eux, Quentin Martinez.
Bonjour, donc merci de cette invitation. Je suis Quentin Martinez, je travaille au parc naturel régional des Baronnies Provençales. Et j'y suis en tant qu'animateur Natura 2000, en particulier sur l'animation d'un site dont on parlera sans doute, qui est le site des Baronnies Gorges de l'Aigle, et qui est un site qui a été remarqué au niveau européen pour sa richesse, justement, d'un point de vue ornithologique.
Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Claude, je fais partie de l'LPO Nuance, un peu plus près. Et de votre Baronnie aussi, on compte les vautours, les chamois, et bon, on est bénévole toute l'année. Merci.
Bonjour, Julien Traversier de l'association Vautours en Baronnie, l'association qui est à l'origine de la présence des vautours ici et dont on va pouvoir parler un peu plus longuement après.
Moi, c'est Geneviève, je fais partie du groupe LPO Nuance. Voilà, oui, la migration va commencer. Donc, bye bye les oiseaux bientôt. mais c'est bien de les identifier aussi.
Yann Schmitt, donc je suis comme Geneviève, bénévole. Je ne suis pas ornithologiste ou professionnel. Je travaille au CFPPA à Nuance, donc je m'occupe plutôt des plantes médicinales et aromatiques, plus précisément, donc j'enseigne. J'adore les oiseaux, leur performance, leur migration, leur beauté aussi. Et donc, j'ai adhéré depuis 2013 à la LPO locale de Nyon. C'est proche et c'est pratique. Et on fait donc des sorties. Et ça n'a qu'augmenté ma passion pour les oiseaux. Mais peut-être qu'il faut dire tout de suite que LPO... en général, donc national, régional, départemental et local, s'occupe de toute la faune. Ça coupe aussi des reptiles, des criquets, des sauterelles, des odonates. Donc elle ne s'occupe pas uniquement des oiseaux, mais de toute la faune et donc forcément aussi de la végétation, parce que c'est la végétation qui fait que tous ces êtres-là peuvent vivre. Voilà.
D'accord, donc on aura bien compris, vous êtes tous là avec des casquettes différentes. Et ce que je propose dans un premier temps, c'est que vous expliquiez peut-être un peu plus en détail vos actions. Vous, en tant que bénévole, n'importe qui peut-il devenir bénévole à LPO? Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce que même si j'y connais rien, je peux y aller? Pour vos tours en Baronnie, peut-être que tout le monde ne connaît pas qui vous êtes, ni vos actions, et déjà donner une idée générale. Pareil pour le parc régional naturel, dans un premier temps, et puis après, on approfondira toutes ces questions. Qui veut commencer?
Oui. Allez-y. Je veux bien. Donc, au fait, oui, tout le monde peut adhérer. D'ailleurs, ça ne coûte rien. On n'est même pas obligé d'adhérer à la LPO nationale. On aimerait quand même que les gens le fassent. Donc moi, j'ai commencé parce que j'ai fait une sortie en Camargue avec Sylvie Portier de la LPO. Et on a vu des reliers. Et elle m'a dit, mais c'est génial, c'est une coche, j'ai jamais vu ça. Et après, ici, dans le Diois, à Vinsombre, à Domaine de Deure, j'ai vu des reliers. Donc j'ai dit, mais il faut quand même le dire, parce qu'apparemment, c'est génial. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé un site qui s'appelle Faundrome. et où tu vois toute la faune, donc aussi les mammifères, etc. Et où tu peux donc déjà lire tout ce qui se passe tous les jours, ce qui est observé par des observateurs partout, et où tu peux attribuer à toi-même aussi, quand tu vois quelque chose, et tu es sûr que c'est telle et telle espèce, ce qui n'est pas toujours le cas, bien sûr. Donc moi j'ai adhéré comme ça, parce que ça a pris de l'ampleur dans ma tête, voilà.
Alors pour le parc, donc c'est un petit peu différent. Vous l'avez compris, c'est donc une structure qui dispose d'une équipe technique. Donc on est recruté, hein, ça fait partie de notre travail. On est salarié donc pour se mettre au service de différentes thématiques. Disons que le gros intérêt des structures comme les parcs naturels régionaux, c'est vraiment la dimension transversale. Tous les chargés de mission sont présents pour assurer des relais et assurer des missions avec différentes thématiques. Et le gros intérêt, c'est que vu que l'on travaille en équipe, on arrive à un petit peu s'ancrer dans différents réseaux et amener un petit peu chacun de nos thématiques au sein de la protection des oiseaux. Je prends un exemple tout bête. Il y a un chargé de mission, par exemple, activité de pleine nature, avec lequel on met en place de la concertation pour que justement il puisse y avoir un développement des activités de pleine nature tout en respectant les dimensions environnementales et les dimensions ornithologiques. Plus généralement, au niveau du parc, ce qu'il faut également savoir, c'est que c'est une collectivité donc, qui est gérée par des élus. Et donc, il y a toute une équipe également d'élus du territoire qui prennent les décisions, qui donnent les orientations. Et ensuite, c'est à nous, équipe technique, de les mettre en œuvre en allant chercher des subventions et en faisant vivre un peu les programmes dans lesquels on s'inscrit.
Alors, pour vos tours en Baronnie... comme je disais en introduction, c'est l'association qui est à l'origine de la présence des vautours ici. Cette année, on fête le 30e anniversaire de l'émergence de l'idée de réintroduire les vautours. On a commencé en 96 avec la réintroduction du vautour fauve. Et 20 ans plus tard, après les premiers lâchers de vautours fauves, c'était quelque chose d'inespéré à l'époque. On est un des rares endroits en France où on peut observer les 4 espèces de vautours. Le vautour fauve, bien entendu, le vautour moine, le vautour percnoptère et le gypaète barbu. Juste une petite précision, les vautours sont des oiseaux qui font partie de la famille des rapaces et ils constituent une exception dans cette famille des rapaces puisqu'eux ne sont pas prédateurs, ce sont des oiseaux charognards qui se nourrissent donc de cadavres d'animaux qu'ils vont trouver dans la nature ou à proximité des élevages ovins ou caprins. Et donc principalement, ils se nourrissent principalement de mammifères herbivores.
Moi, la question que je me pose, c'est que vous travaillez pas du tout sur les mêmes échelles en fait. Et toi, tu disais, ça fait quelques années, il y a eu l'émergence de l'idée, et je me demande, est-ce que ça a un lien avec les comptages qui sont faits par la LPO et les observations, voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre l'émergence de ces idées-là et le travail qui est fait par des bénévoles sur le terrain?
Alors, si je peux me permettre, en fait, on va dire qu'il y a 30 ans, un peu moins de 30 ans, à l'occasion du premier lâcher de vautours fauves en 96, c'est à ce moment-là qu'est apparue l'idée dans la bouche de politiques locaux, qu'est apparue l'idée de la création du parc naturel régional des Baronnies. Et à l'époque également, on va dire que la LPO n'était pas encore ancrée localement. Donc on va dire que l'histoire naturaliste, humaine et naturaliste locale a débuté avec Vautour en Baronnie, avec ce projet qui a fédéré beaucoup de monde, beaucoup de naturalistes, beaucoup d'éleveurs, de chasseurs, d'élus. Mais après, on travaille forcément en permanence ensemble, que ce soit avec les bénévoles de la LPO, avec le parc, avec d'autres structures. Mais même si on est visiblement, a priori, chacun dans notre coin, en fait, on travaille en permanence main dans la main.
Et oui, et justement, en parlant du parc régional des Baronnies, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Quentin, puisque toi, tu y travailles?
Oui, tout à fait. Moi, ce que je vais sans doute recentrer un petit peu et faire le lien avec ce que Julien expliquait, justement sur, on va dire, une présentation un peu générale et simpliste de Natura 2000, parce que justement, le site Natura 2000, donc des Baronnies Gorges de Lek, qui s'étend quand même sur 12 500 hectares, sur une trentaine de communes drômoises, donc depuis Nyons jusqu'à Vercloz, en suivant le cours de l'Aigue, et puis après en prenant divers espaces un peu plus montagneux, un peu plus pastoraux. Ce site-là, il a été en particulier mis en évidence parce que justement, c'était un des espaces sur lesquels on pouvait observer les quatre espèces de vautours européens. Cette politique Natura 2000, justement, c'est une politique européenne qui est portée par les États, par chacun des États de l'Europe, qui s'engagent auprès de l'Union européenne. Et en échange, ils peuvent avoir, ils peuvent prétendre à des subventions par l'Europe. Et c'est des outils, on va dire, de développement local. Le principe de Natura 2000, c'est vraiment préférer le contrat à la contrainte. C'est-à-dire qu'on va essayer de fédérer les gens, de les faire aller plus loin, de fédérer des acteurs, de leur faire adopter des bonnes pratiques. Et en échange, ils vont signer une sorte de contrat avec nous. C'est un contrat qui peut être tout simplement un engagement sur une charte, sur des bonnes pratiques. Ça peut aussi être un contrat qui débouche sur des subventions en l'échange de manière de travailler un peu différente. Et à chaque fois, en fait, justement, ces pratiques vont dans le sens vraiment d'un maintien des oiseaux sur place. Et par un maintien des oiseaux, c'est vrai que c'est assez large. Ça va vraiment des conditions d'alimentation, d'installation des oiseaux, de reproduction, avec des enjeux autour de la quiétude, vraiment des sites de nidification. Donc c'est des choses qui peuvent après revêtir des aspects très divers. On est amené du coup à travailler avec des acteurs vraiment très variés pour justement faire aller un petit peu tout le monde dans le même sens.
Et dans les espaces Natura 2000, est-ce que c'est des espèces particulières qui sont protégées ou c'est n'importe quel oiseau ?
Alors non, en fait, donc un site Natura 2000 est créé quand on commence à recenser au sein d'un périmètre un certain nombre d'oiseaux d'intérêt européen. Et c'est la complexité de l'Europe, on en pense ce qu'on veut, mais tout est en fait codifié, tout est légiféré. Il y a donc des annexes, en particulier ce qu'on appelle l'annexe 1 de la directive oiseaux. Et au sein de cette annexe, vous avez une liste arrêtée d'oiseaux qui sont identifiés comme rares ou menacés à l'échelle européenne. Et c'est donc au sein de cette liste d'oiseaux que l'on va aller chercher un petit peu les espèces emblématiques et les espèces qui vont un petit peu donner la valeur des périmètres. Donc là, au sein du site Natura 2000 des Baronnies-Gorges de l'Aigue, on observe environ entre 24 et 26 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire. Je ne suis pas tout à fait précis parce qu'il y en a certaines, on n'est pas tout à fait sûr qu'elles soient nicheuses sur la région, donc on préfère rester un petit peu prudent. Par contre, on est sûr qu'on peut les observer. Donc au-delà de ça, ça reste un site qui est particulièrement riche d'un point de vue justement d'espèces qui sont... je le répète, rare ou menacé à l'échelle européenne.
Alors, moi, j'ai du coup deux questions pour rebondir sur ce que tu as dit. Déjà, peut-être, est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire, tout le monde ça peut l'expliquer ici, ce que ça veut dire des espèces nicheuses. Et ce matin, on en parlait un petit peu et puis on se posait la question, oui, si tous les oiseaux étaient protégés ou seulement quelques-uns. Et tu nous as parlé des espèces parapluies, ce que vous appelez les espèces parapluies. Alors, peut-être qu'on peut aussi... y revenir et dire ce que c'est, parce que je pense que ça répond aussi à la question que posait Maud.
Oui, je vais m'exprimer, mais je pense qu'on aurait un peu tous le même discours. En ce qui concerne les espèces nicheuses, c'est tout simplement la différence entre des oiseaux qui peuvent être simplement migrateurs, qui peuvent être de passage, qui peuvent simplement venir s'alimenter, et des oiseaux qui vont trouver dans un espace donné les conditions nécessaires à leur nidification. Alors il y a déjà tout simplement le site de nidification, peut soit être par exemple une falaise, un arbre mort, qui peut être un trou occupé par un ancien oiseau, en particulier les piques. Et en plus de ces conditions, on va dire, de retrouver un contexte dans lequel l'oiseau va pouvoir nicher, il faut aussi qu'il puisse trouver un contexte dans lequel il va pouvoir s'alimenter, il va pouvoir alimenter ses jeunes. Très souvent, en fait, avant qu'une espèce soit référencée comme nicheuse, on l'observe s'installant, on l'observe pondant ses œufs, parfois même les couvant, et malheureusement, il y a quelque chose qui foire à un moment, et voilà, l'espèce est simplement, on va dire, présente sur le site et pas encore nicheuse. Voilà, il y a des habitudes qui sont prises tout simplement par les oiseaux et qui font que leur statut au sein d'un espace change. En ce qui concerne les espèces parapluies, c'est simplement une petite notion écologique qui consiste à considérer que certaines espèces, soit d'oiseaux, soit de plantes, soit de mammifères, peuvent être beaucoup plus sensibles que d'autres à des perturbations, soit humaines, soit même par d'autres facteurs. Et une fois qu'en fait ces espèces sont installées au sein d'un territoire, on sait que par effet de cascade, comme elles retrouvent toutes les conditions nécessaires à leur survie au sein de cet espace, qu'il y aura toute une multitude d'autres espèces qui peuvent un petit peu être présentes et s'installer. C'est un petit peu un des arguments aussi de Natura 2000, c'est-à-dire qu'en protégeant des espèces qui sont rares ou menacées à l'échelle européenne, donc a priori beaucoup plus sensibles, on devrait arriver à maintenir un contexte naturel au niveau local qui peut être profitable à beaucoup d'autres espèces, qui peut être profitable à beaucoup d'autres oiseaux, voire même d'autres espèces qui peuvent se nourrir d'oiseaux, on peut imaginer un peu n'importe quoi. Mais voilà ce que sont en fait les espèces parapluies, c'est un peu des espèces qui, lorsqu'elles sont présentes, attestent de la qualité du milieu naturel environnant.
Et en parlant des oiseaux nicheurs, je crois qu'on va en venir au vautour, hein, puisque on a quand même Julien Traverti avec nous qui est de Vautour en Baronnie. Et peut-être que tu pourrais nous faire un petit peu un historique plus approfondi de la présence du vautour ici. Combien il y a d'individus ? Est-ce qu'ils vont bien ? Est-ce que c'est une bonne année pour vous ? Et tout ça ?
Alors, je vais essayer d'être quand même synthétique. Il y a beaucoup de choses à dire. Je l'ai dit tout à l'heure, la réintroduction des vautours a commencé avec le vautour fauve. On a relâché 60 individus entre 1996 et 2001. Ensuite, le vautour moine, on a relâché un peu plus de 45 individus depuis 2004. La réintroduction devrait s'achever l'an prochain, avec le lâcher au total d'une cinquantaine d'oiseaux. Le vautour percnoptère est un vautour migrateur qui, lui, va passer l'hiver en Afrique de l'Ouest. Et il revient se reproduire dans nos régions entre le mois de mars et le mois de septembre. Et donc, lui... c'est compliqué de réintroduire un oiseau migrateur, donc le vautour percnoptère, par chance, il est revenu spontanément au début des années 2000. Et puis le dernier vautour, le gypaète barbu, est en cours de réintroduction depuis 2 ans. On a relâché 2 oiseaux cette année et 2 oiseaux l'an dernier. En termes d'effectifs, le vautour fauve est l'espèce la plus abondante. On a recensé cette année, ça fait partie de nos attributions à l'association, on va dire, de recenser le nombre de couples reproducteurs chaque année. Cette année, on a recensé 220 couples de vautours fauves sur l'ensemble des baronnies. Donc on va dire, si on schématise et que Rémusa est le point central, c'est dans un rayon de la colonie s'étend dans un rayon de 20 km ou 25 km autour de Rémusa. Seulement 8 couples de vautours moines cette année qui sont reproduits dans la région. Un couple de vautours percnoptères qui a disparu en début de saison et qui a été remplacé par un nouveau couple qui n'ont pas eu le temps de se reproduire et qui sont déjà repartis en migration. Mais c'est quand même plutôt bon signe pour l'an prochain. Et puis le gypaète barbu, lui, on a encore que des immatures, des adolescents qui sont pas encore en âge de se reproduire. C'est des espèces qui vivent très longtemps, mais qui commencent à se reproduire assez tard. Hein. Le gypaète, il se reproduit pas avant 8 ou 10 ans. Donc là, on a des oiseaux qui sont âgés entre 1 an et demi et 5-6 ans. Et donc, on est plutôt sur une dynamique positive sur le long terme, même si c'est très positif pour le vautour fauve, c'est plutôt positif pour le moine et le gypaète et le percnoptère. C'est l'espèce qui nous inquiète le plus à l'échelle locale comme à l'échelle nationale ou européenne. C'est la seule espèce de vautour qui en Europe décline un peu partout.
Et oui, le gypaète, cette année, il y a eu quand même un moment important puisqu'il y a eu le relâché de 2 gypaètes. Tu peux nous en parler ? Est-ce qu'ils vont bien, ces oiseaux ?
Alors,
quelle tête ? Ouais.
Depuis 2 ans, donc c'est un peu une des actions phares autour des vautours, c'est la réintroduction du gypaète. Donc on a relâché 2 oiseaux cette année, des oiseaux qui sont nés en centre d'élevage. Hein. Il y a des centres d'élevage spécialisés qui font de l'élevage de gypaète barbu en Europe, il y en a 5, et également des zoos qui participent. Donc c'était 2 femelles, c'est des oiseaux très précieux et très rares puisque le nombre d'oiseaux disponibles pour la réintroduction chaque année est faible, hein. On sait, entre les différents sites de réintroduction en Europe cette année, on s'est partagé 18 oiseaux, donc, dont 2 dans les baronnies et 2 autres dans le Vercors. Et pour les les deux oiseaux de cette année, tout s'est bien passé durant les premières semaines. Et puis, il y a eu un coup de moins bien la semaine dernière. Il y a une semaine, une des deux femelles a été retrouvée morte, électrocutée. Elle avait changé de massif. Elle était passée dans le massif central. Elle était dans les secteurs du gorge du Tarn et de la Jonte. Donc, elle a eu le malheur de se poser. On ne sait pas si elle s'est posée sur un pylône électrique ou si elle a simplement percuté la ligne. Mais en tout cas, elle est morte grillée. Et le deuxième oiseau, on n'a pas trop de nouvelles depuis quelques jours, mais il était, dernière nouvelle, dans le massif des Écrins. Alors quand je dis qu'on n'a pas de nouvelles, c'est simplement qu'il ne nous envoie pas des SMS, enfin pas directement, mais ces oiseaux sont équipés de balises GPS et qui nous permettent de les suivre quand ils s'éloignent à distance. On compte aussi, bien entendu, sur le réseau d'observateurs, que ce soit bénévoles ou les agents des parcs, les gens qui observent la nature en général, pour nous faire remonter ces observations.
La LPO a quelque chose à rajouter, peut-être ? Le micro, s'il vous plaît.
Toujours dans les mauvaises nouvelles, les deux gypaètes relâchés dans le Vercors cette année sont également morts. Là, pour l'instant, on ne connaît pas les causes de mortalité.
Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a peut-être un peu à cause de la présence humaine, parce que faut savoir que les êtres humains, ne tolèrent pas toujours la présence des rapaces. Et une des questions qu'on se posait, c'est par exemple, on a tous entendu ces rumeurs folles sur des vautours qui auraient attaqué des vaches vivantes et qui les auraient mises à mort, etc. Et ce qu'on se demandait, c'est déjà, est-ce que c'est vrai ? Et puis aussi, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce genre de rumeurs qui circulent ? Pourquoi ces fantasmes autour de ces oiseaux ? Pourquoi est-ce qu'on en a si peur ?
Alors, on pourrait faire une émission complète sur le sujet. Mais effectivement, il y a des, on va dire, depuis quelques années, des potentielles attaques de vautours. Il faut savoir que jusqu'à présent, c'est pas que localisé dans la région, bien entendu, et c'est même plutôt ici, on est plutôt en dehors de ces zones d'attaque. Ça se passe surtout dans les Pyrénées et un peu plus dans le Massif central. Donc les attaques n'ont jamais été prouvées. Contrairement à ce qu'on entend dire, les vautours ne changent pas de comportement, ne changent pas d'habitude. S'ils le font, c'est quelque chose qui prendrait plusieurs milliers d'années. Hein. L'évolution ne se passe pas comme ça en un claquement de doigts. Quelles sont les causes de ces possibles attaques, ces prétendues attaques ? Il y a plusieurs causes, mais il y a beaucoup de mésinformations, de désinformations qui circulent. Il y a également des mauvaises interprétations. Il y a des gens qui observent des choses et qui interprètent mal ce qu'ils voient. Et il peut y avoir de temps en temps, de manière exceptionnelle, des vautours qui peuvent devancer la mort d'animaux soit très malades, soit en grande difficulté, qui ne peuvent plus se mouvoir. Voilà, les vautours réagissent à deux stimuli, la présence de sang, la couleur rouge, et puis l'immobilité. Donc quand ces deux facteurs sont combinés, les vautours peuvent évidemment intervenir. Les constats vétérinaires qui sont effectués dans les cas où c'est possible montre qu'à chaque fois les vautours sont à 90% des cas les vautours interviennent après la mort de l'animal, donc ils sont bien charognards, ils font leur travail de charognard, et dans moins de 10% des cas ils sont intervenus avant la mort, ils ont devancé la mort en fait. Ce ne sont pas des devins, ils ne sont pas capables de prédire telle bête va mourir ou telle bête est saine. Non, c'est simplement ils réagissent aux stimuli immobilité plus présence de sang.
Si vous souhaitez vraiment, j'ai lu le document il n'y a pas longtemps, donc je me permets de compléter. Il y a un plan national d'action sur le vautour fauve et élevage qui a justement fait un petit peu un point là-dessus. Et donc c'est un travail qui a été mené par le Parc national des Pyrénées. Et ils ont recensé donc 170 enquêtes menées autour de prétendues attaques de vautours. Et sur ces 170 enquêtes, ils ont débouché que sur seulement 8% où les vautours avaient eu un facteur aggravant sur la mortalité de l'animal. Donc on est quand même bien loin de comportements qui se généralisent. Et donc je vous invite à prendre connaissance de ce document qui est certes très épais mais qui est assez synthétique et très sympa si vous voulez avoir tous les chiffres et un peu l'ensemble des informations sur le comportement des vautours fauves par rapport au bétail vivant.
Et en parlant de l'alimentation des vautours, il y a un système qui est très intéressant qui a été mis en place, c'est l'écarissage. Donc, je vous laisse en parler, hein, pour nourrir tous ces vautours qui rôdent.
Alors, les vautours sont... Depuis que l'homme a domestiqué le bétail domestique, les vautours sont quand même grandement dépendants, en tout cas en Europe, de la faune domestique, hein, donc principalement des animaux d'élevage type ovin et caprin. Et il y a certaines dispositions réglementaires, que ce soit au niveau de l'État français ou au niveau de l'Europe, qui permettent, dans certains cas, à ce que les cadavres issus de l'élevage d'ovins soient mis à disposition des vautours. Donc, Vautours en Baronnie, on a mis en place depuis le début de nos actions, on a mis en place un système d'écarissage, c'est-à-dire que les éleveurs qui ont une bête morte dans leur troupeau peuvent nous appeler. Et nous, on se déplace pour récupérer le cadavre et le mettre à disposition des vautours sur un site qui est validé par les services de l'État, par les services vétérinaires. Donc ça, c'est quelque chose... Nous, on fonctionne maintenant avec une centaine d'éleveurs dans un rayon de 30 km autour de Rémusat. Donc les éleveurs nous appellent dès qu'ils ont une bête morte et on essaie de passer dans la journée pour évacuer le cadavre. Et également, certains éleveurs ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de déposer les cadavres dans leur terrain, pareil en ayant fourni au préalable un dossier d'autorisation auprès des services vétérinaires. Donc on appelle ça l'écarissage naturel.
Bah, juste pour témoigner ou pour rajouter, parce que j'étais éleveur dans le Diois, éleveur caprin, donc j'ai trouvé ça très pratique quand on avait une bête morte ou une bête très malade qui voulait bien le venir chercher et pour nourrir à l'époque des bêtes qui étaient en cage dans le Diois et qui étaient là pour s'imprégner du paysage et pour après être relâchées. Donc la seule condition c'était qu'il fallait tuer la bête avant que le service s'en charge. Voilà. Donc c'était une chose, je trouve, très utile et très pratique pour l'éleveur.
Et ça me fait penser que c'est génial ce qui est en train de se mettre en place entre les naturalistes et puis le monde agricole, parce que c'est vrai qu'à une époque... Enfin, c'est vrai. Moi, j'ai par oui dire, hein, j'ai entendu dire qu'à une époque, c'était pas facile la cohabitation entre les intérêts des agriculteurs et des éleveurs, parce qu'ils semblaient tous contradictoires. Et là, petit à petit, on voit que quand même, il y a de la coopération qui se met en place, je pense... au fait que maintenant les éleveurs, ils aient la possibilité de faire appel à la LPO et tout ça pour en venir à cette question, est-ce que avec le monde agricole, comment sont les relations et est-ce que ça s'ouvre, est-ce qu'il y a des difficultés aussi avec le monde agricole?
Ouais, je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. Je pense entre autres que la biodiversité finalement est favorable pour l'agriculteur. Les oiseaux insectivores, par exemple, ils sont très utiles pour éviter qu'il y ait pullulation d'insectes et donc attaque aux fruits, à la vigne, aux cultures en général. Donc on ne peut que, par exemple comme LPO, on stimule les gens de mettre des nichoirs et en général comme les LPO nationales aussi stimulent en général la protection des oiseaux et de la biodiversité. Je pense que à ce niveau-là, c'est absolument un avantage. Après, je pense que si tout le monde puisse se convertir en agriculture biologique, il y aura beaucoup moins de conflits.
Oui, au-delà de l'agriculture biologique, on voit aussi plus généralement cette nouvelle tendance au niveau du monde agricole qui se tourne vraiment vers l'agroécologie, c'est-à-dire se servir des services que peut nous rendre la nature pour maximiser la production agricole. Et donc on se rend compte que ces services ils peuvent s'incarner de différentes façons, par l'écarissage naturel, par la prédation de certains insectes par les oiseaux, etc. C'est vraiment une tendance et un discours qui est de plus en plus porté par le monde agricole, et je pense que ça va vraiment faire son chemin, d'autant plus que ça peut se révéler rentable.
Vous parlez comme si les choses étaient en train de changer, des nouvelles pratiques, mais ça veut dire que de base, l'agriculture est considérée comme une menace vis-à-vis de la protection des oiseaux ?
Moi, je dirais que ce sont les activités humaines qui sont globalement une menace. L'agriculture peut être une menace pour la, pour la nature, on va dire ponctuellement, je dis bien peut être, c'est pas, faut, on peut pas généraliser, loin de là, mais tout, comme toutes les activités humaines, hein, mais on a, quand on se déplace avec notre voiture, on a même, on percute des animaux, on percute des oiseaux, des chauves-souris, donc quoi qu'on fasse, on a des impacts. On a un impact. L'idéal, c'est d'arriver à réduire ces impacts. Voilà. Mais donc, du coup, probablement qu'on, ouais, avec du recul, on progresse, que ce soit dans les relations entre les différentes personnes, les différentes structures, on progresse. Malheureusement, probablement qu'on ne progresse pas suffisamment vite pour enrayer la disparition de certaines espèces. Voilà. Mais on y travaille.
Bah, si je peux rajouter quelque chose, moi je crois que c'est plutôt une forme d'agriculture qui est intensive et productiviste et qui arrase des haies, qui remblait des mares, qui fait des parcelles de 20 hectares au lieu d'un hectare et qui utilise bien sûr des pesticides à outrance, qui est en effet en général un effet adverse à la nature, mais même à l'homme, bien sûr, parce qu'il y a plein de paysans qui s'intoxiquent eux-mêmes aussi, et qui vivent juste jusqu'à 55 ans avec un cancer de cerveau ou d'autres maladies reconnues, maladies professionnelles. Donc c'est une certaine forme d'agriculture, le fait qu'il faut nous nourrir et qu'il faut faire une agriculture mais respectable, respectée, respectueuse de la nature et de l'humain et de toute la biodiversité. Je veux dire, une agriculture, c'est tout à fait possible. Juste un petit exemple, quand on a un oiseau qui niche dans une prairie, on peut juste mettre une protection autour, on peut le respecter quand on fait la fauche, et au moins l'oiseau peut finir la nidification. Donc ça, un paysan peut dire, bon, ça vaut la peine parce que c'est un bel oiseau, c'est magnifique, c'est un oiseau qui est un rapace qui chope des campagnols par exemple, un busard par exemple, et pourquoi je ne le ferais pas. Mais il y a des paysans, j'ai discuté avec des paysans tout au long de ma vie professionnelle qui disent, ouais, ben là, c'est pas la peine, c'est trop de boulot, et après c'est la routine et c'est la course pour être encore plus productif que le voisin qui fait qu'on peut même plus respecter la nature.
Et est-ce que ça fait partie du coup de vos missions d'aller sensibiliser les agriculteurs, n'importe quel être humain qui peut avoir une attitude menaçante vis-à-vis des oiseaux? Je pense notamment à la LPO, si quelqu'un veut répondre.
Oui, mais c'est pas évident parce que tu vas aller voir les gens, bon, et ils sont vraiment des fois désagréables, quoi. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre.
Bon, je suis plus optimiste, donc mon travail est d'apprendre les jeunes personnes à s'installer en agriculture biologique. Donc c'est vrai que je suis bien placé, et je sais bien aussi que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire d'une manière très cohérente. Mais je constate quand même chez les fils d'agriculteurs, les filles d'agriculteurs, donc on va dire la nouvelle génération, qui a beaucoup plus d'ouverture. Et grâce à l'animation de LPO ou d'autres, il y a beaucoup d'autres organismes qui s'occupent bien sûr de l'animation ou de sensibiliser les gens à la nature. Les gens dans leur lycée ou dans leurs écoles, ils font aussi des visites, ou ils découvrent aussi que la nature est quand même très compliquée, très complexe, très belle, et ils peuvent donc, et d'ailleurs c'est ce que je vois, c'est ce que je voulais dire, même s'ils ne font pas forcément faire le pas qui est difficile dans leur milieu vers l'agriculture biologique, être plus ouvert à une agriculture respectueuse de l'environnement.
Oui, simplement pour compléter, c'est vrai que je pense que le milieu de l'environnement et le milieu agricole se parlaient pas auparavant. Il y avait des blocs qui s'opposaient. Et c'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même par des personnes qui ont des profils un peu plus transversaux, qui connaissent le monde agricole, qui sont un peu naturalistes, qui sont de plus en plus sensibilisés, de l'information vraiment qui arrive aux agriculteurs. Et je crois qu'ils se rendent vraiment compte de l'importance de leur pratique, et surtout, ils découvrent finalement que certaines bonnes pratiques ne demandent pas des efforts énormes, simplement changer un peu la manière de faire, tout en conservant justement leur, leurs objectifs de production. Ils cherchent plus forcément une production, ils cherchent plus une rentabilité de leurs produits, comment mieux le valoriser. Et cette meilleure valorisation, elle passe par le mieux produire. Et en produisant mieux, protéger l'environnement, c'est aussi produire mieux. J'ajouterais qu'il faut aussi le reconnaître, que dans les baronnies provençales, heureusement, on est encore un peu protégé des parcelles de 20 hectares et des agriculteurs qui rasent des haies, même si c'est vrai que dans d'autres régions, ça arrive. Donc simplement pour souligner que les agriculteurs du territoire pratiquent tout de même une agriculture vraiment extensive et qui, du coup, fournit tout simplement un environnement agricole plutôt favorable, je pense, à l'installation de plusieurs espèces.
Et oui, parce qu'une question importante pour les oiseaux, c'est la question de l'habitat. La question que je me pose, c'est quels sont les habitats les plus propices alors, ça sera peut-être pas les mêmes en fonction de si c'est des rapaces ou si c'est des petits passereaux, mais vous pouvez peut-être nous dire qu'est-ce qui fait qu'un petit passereau ou un gros vautour va venir habiter dans le coin ?
En fait, ils ont besoin de deux choses, les oiseaux, quelle que soit l'espèce, c'est un endroit pour installer leur nid et de la nourriture. Donc à partir de là, en schématisant, donc qu'est-ce qui fait qu'un vautour va s'installer ici ? C'est s'il y a une belle falaise pour nicher et puis des cadavres régulièrement dans la nature, il va nicher une hirondelle de fenêtre dans un village. Les endroits pour nicher ne manquent pas et pourtant elles continuent à disparaître. Donc là, on peut se poser des questions sur la présence de nourriture ou sur la qualité de la nourriture qui est présente. Les hirondelles mangent des insectes, probablement que leur nourriture est en grande partie empoisonnée. Mais en gros, c'est ça. Qu'est-ce qui fait ? Alors après, selon où on se trouve, on va dire en France, certains habitats vont être plus riches ou plus prioritaire au niveau de la protection. Mais c'est vrai que globalement, les habitats agricoles sont ceux qui revêtent le plus d'intérêt à l'heure actuelle pour la protection des oiseaux.
Peut-être ce qui manque le plus, c'est les marais et tous les paysages humides. C'est quelque chose qui était abondant en France il y a un siècle et qui devient très, très, très rare. Et c'est peut-être les milieux, donc entre autres les mares à une petite échelle, mais aussi des marais à une plus grande échelle, les milieux le plus à protéger et à préserver, de les assécher et d'en faire encore des terres agricoles à grands frais et à grands coûts pour la nature surtout.
Une question autour de laquelle on tourne là depuis quelques minutes, c'est qu'on a parlé du monde agricole, on parle de nous, enfin de vous, les naturalistes, et je vais rajouter d'autres usagers de la nature que sont les chasseurs. Pourquoi je rajoute cette notion-là ? C'est parce que il y a différentes sensibilités qui considèrent que, par exemple, les chasseurs vont être aussi des auxiliaires pour la nature, pour le développement de celle-ci. Il y en a d'autres qui diront, mais non, les chasseurs ne le sont pas. Même réflexion pour les agriculteurs et les éleveurs. Et est-ce que vous avez un point de vue sur cette question ? Et est-ce qu'on est obligé d'être dans la confrontation ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou pas ? Parce qu'on entend régulièrement des petits incidents, évidemment, parce que les intérêts ne sont pas forcément les mêmes.
Moi, je dirais que les incidents dont tu parles sont des faits isolés. Alors, quand c'est un fait isolé qui se produit sur une espèce pas menacée, c'est rageant, mais c'est... à la limite, ça a peu d'impact sur l'espèce. Quand c'est un fait isolé qui fait qu'un gypaète barbu est abattu volontairement dans les Pyrénées, là c'est plus que rageant, mais ça reste malgré tout un cas isolé. Je laisse la parole aux collègues sur le sujet.
Bon, cet exemple, c'est du braconnage, c'est même un délit, c'est pas de la chasse. Donc en effet, il y a certains chasseurs, mais je crois que c'est une très très grande minorité, qui ont une certaine hargne contre les rapaces, parce qu'ils ont le droit de chasser tout au long de l'année sans permis et sans assurance. Ils ne connaissent pas la fermeture de la chasse, donc ça enrage certains chasseurs, mais avec une certaine mentalité. Donc c'est très rare, mais malheureusement, il y a des percnoptères, des gypaètes et des belles oiseaux comme comme le Balbuzard ou le Cirque de Jean Leblanc qui en sont victimes, même des faucons, même j'ai trouvé un épervier qui était plombé là, quand j'étais paysan dans le Diva. Donc c'est enrageant et c'est pas de la chasse. Après la chasse elle peut être je pense aussi être en développement durable, être respectant des chaînes écologiques entre autres. Il y a quand même pléthore de sangliers et c'est quand même très bien pour les paysans que les chasseurs s'en occupent. D'ailleurs, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un déséquilibre dans la nature qui a pléthore de sangliers, ça il faut étudier aussi, mais que les chasseurs s'en occupent et qu'ils en font leur festin de bidoche, bon, ça c'est une très bonne chose. Donc je pense qu'il ne faut pas être contre la chasse, il faut être pour une chasse respectueuse, encore une fois, de la nature.
Contre le braconnage.
Ah oui, évidemment, contre. C'est des actes. C'est des purs délits, quoi. C'est... Bon, bref.
Bon, je vais passer du coq à l'âne, tant pis. Est-ce que vous avez. Vous êtes tous des passionnés ici. Et du coup, peut-être la question qui pourrait être sympa, c'est comment vous en êtes venu à vous intéresser à ça, et est-ce que vous avez une petite histoire, une anecdote qui vous a fait vibrer un jour et qui vous a peut-être donné le déclic, ou en tout cas qui vous a marqué?
Oui, moi personnellement, j'avais un manque réel de ce côté de la nature, et j'ai voulu approfondir, d'abord connaître tout ce qui m'entourait, oiseaux, mammifères, voilà. Et donc ensuite, avec ça en poche, on va dire, ensuite on s'intéresse à plus large. Et là, on s'aperçoit que soi-même, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, ne pas couper des arbres dans notre propriété, au jardin, mettre des haies, c'est petit. Mais ça sert d'exemple aux copains, aux... Bon. Si ça pouvait faire quelque chose d'utile, ça serait super.
Bon, moi, je suis des Pays-Bas où j'ai toujours vu nicher autour de moi les huîtres épis, les fanaux huppés, les barges à queue noire, etc. J'oublie les gambettes. Donc, c'était toujours... une chose magnifique à voir autour de toi, et de voir les petits poussins qui étaient nourris et tout ça. Donc je pense que ça m'a fait venir naturaliste peut-être. En tout cas, ce que je trouve le plus beau là-dedans, c'est que ces bêtes-là sont capables de faire 5000 km d'un seul trait pour aller en Afrique, pour se nourrir sur le banc d'Argoin, en Mauritanie ou ailleurs. C'est tellement magnifique que ça... Bon, que ça me stimule, en tout cas, de m'intéresser toujours au monde d'oiseaux. Bien que les serpents ou les insectes m'intéressent aussi, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose de magique pour moi.
Oui. Et puis, moi, c'est pareil. C'est tellement beau quand les oiseaux ils passent en bande et puis qu'on peut les regarder comme ça et rêver.
Là, depuis quelque temps, on observe qu'il y a énormément de ces papillons blancs, je ne sais plus comment ils s'appellent. Là. La perle du buis. Vous en avez peut-être déjà parlé, mais j'étais à la buvette, je n'ai rien entendu. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça explose comme ça? Est-ce qu'il manque le prédateur de ces papillons-là? Est-ce que c'est une question de réchauffement général de la température? Parce que ce n'est pas seulement ici, c'est dans le Jura, il y a des zones... qui étaient des zones buisées, on va dire, je ne sais pas comment on dit, avec du buis, qui sont devenues comme brûlées. Il n'y a plus rien. C'est tout. Donc, il n'y a pas que ici. Et puis, quand on allume la lumière devant la maison le soir, il y en a 25, 30, 50 qui s'accumulent.
C'est tout blanc, des nuages blancs.
Voilà, des nuages blancs. Et ce n'est pas seulement local. Moi, l'an dernier, j'en avais entendu parler autour de Toulignan. Cette année, je m'aperçois que c'est bien plus général. C'est tout... je pense toute la France, mais en tout cas tout l'Est, on va dire.
Bon, je pense que ça reste un mystère pourquoi d'un coup c'est venu. Je pense que c'est encore une fois un déséquilibre dans la nature, que c'est une invasion et c'est une bête qui n'était pas ici avant. et qui a trouvé une proie facile, en quelque sorte. Donc ça, je ne peux pas vous répondre pourquoi il est venu. En tout cas, il a pu se multiplier massivement parce qu'il mange donc le buis. Par contre, on sait pourquoi. Pour l'instant, il n'y a pas de prédateur naturel qui peut le réguler parce que le buis est toxique, il contient des alcaloïdes et l'oiseau qui mangerait les chenilles, parce qu'un oiseau peut un nicher de mésanges peut en manger 1000 chenilles dans une saison avec 3 nichées, cet oiseau-là, il ne va pas survivre. Il ne va pas survivre, donc en fait, ce n'est pas qu'il ne va pas survivre, il va se dégoûter de ces chenilles-là et il va en prendre d'autres. Donc la pullulation est un fait et pour l'instant, il n'y a pas encore un oiseau qui a, ou un oiseau ou éventuellement un mammifère, il n'y a pas encore un prédateur naturellement présent en France qui a pu s'en occuper. Probablement ça va se faire et probablement aussi ça va prendre un certain temps. En attendant, c'est une plaie, oui, c'est vrai.
Donc pour compléter sur cette histoire de la pyrale du buis, on parlait tout à l'heure des oiseaux qui peuvent faire des distances assez incroyables, voyager jusqu'en Afrique. La pyrale du buis, elle, par contre, elle en est incapable. Elle a tout simplement été importée par l'homme parce que plusieurs pépiniéristes ont jugé d'importer des buis qui venaient d'Asie du Sud-Est, puisqu'ils coûtaient moins cher que des buis qui pouvaient être produits en France. Et en important les buis, ils ont ramené des chenilles de pyrale du buis. Et à partir de là, ça a démarré. Donc c'est aussi des phénomènes qui questionnent notre manière de consommer, la manière dont on voit qu'est-ce qu'on est prêt à payer. Pourquoi est-ce qu'on cherche tout le temps à maximiser son profit dans n'importe quel compartiment de notre vie, parce que des buis qui vont être plantés en ornemental, je pense pas qu'il y ait un vrai enjeu sur sa rentabilité, sur la production qu'il peut avoir, etc. Donc voilà, et à partir de là, comme l'a très bien expliqué Yann, le problème c'est que l'équilibre entre l'espèce présente et ses prédateurs ne se fait pas. Ouais. Et à partir de là, y a une pullulation. Alors c'est vrai que c'est une espèce en plus qui a des armes, qui a vraiment une très forte capacité à se reproduire. Bon, après, pour vous rassurer, il y a des équipes de recherche qui planchent dessus. Le problème, c'est que ça va mettre une petite dizaine d'années. Donc d'ici là, faudrait adopter des comportements responsables. Il y a des traitements contre la pyrale du buis qui fonctionnent très bien, même en agriculture biologique. Je pense en particulier au BT, au Bacillus thuringiensis, pour être plus précis. Après, il y a aussi des précautions au moment où on l'applique, parce que c'est une bactérie qui produit une toxine, mais qui est non sélective sur les papillons. Donc il faut bien s'assurer que lorsqu'on le pulvérise sur un buis infesté par des pyrales, il n'y a pas d'autres papillons, parce que là encore, on va détruire d'autres espèces, on peut créer des déséquilibres, et on rentre dans un cercle vicieux. Donc voilà pour compléter. Julien ?
Ouais, moi, je dirais que vu la quantité de buis qu'il y a dans les montagnes, en gros, ça sert à rien de traiter. Le Bacillus thuringiensis, c'est localement, mais encore déjà là, on a un impact sur d'autres espèces qui sont naturellement présentes. Et là, c'est pas du tout sélectif. Donc de toute façon, la pyrale du buis, clairement, on n'a plus qu'à subir. Hein, et après, visiblement, ce qui commence à ressortir en termes d'études, c'est que ça va faire des cycles. Il y aura des cycles où il y a des années, un peu plus au nord, dans le Royan. Jusqu'à l'an dernier, c'était effectivement une invasion. Et là, cette année, étant donné que les chenilles n'avaient plus rien à manger, il y a eu une première génération de pyrales du buis. Et puis là, depuis début juin, on ne voit plus de papillons, il n'y a plus de pyrales, parce qu'elles ont tout mangé. Les buis sont encore vivants, mais ils n'ont pas eu le temps de refaire des feuilles. Ils refont des feuilles peut-être dans un an ou deux. Enfin, ça reste encore à voir, mais voilà. Mais ça va faire des cycles probablement, mais il n'y a rien à faire. En gros, il n'y a qu'à subir et réfléchir sur nos conditions de consommation.
Et voilà, et oui. Et donc, en parlant de ça, est-ce que tu avais encore une autre question ?
Oui, c'était par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure.
Vas-y, prends le micro.
Tu disais que les vautours n'étaient pas attirés par l'odeur. Un jour, on pique-niquait là-bas où il y a encore un peu de soleil sur les crêtes du vautour, là, de la montagne qui s'appelle le vautour. On a ouvert une boîte de pâté et ça n'a pas pris 5 minutes qu'il y avait 10 vautours qui nous tournaient au-dessus. Alors,
j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est une bonne observation, mais l'interprétation est fausse. C'est prouvé depuis des années, les vautours n'ont pas d'odorat. Comme la majorité des oiseaux d'ailleurs. Mais les vautours n'ont pas d'odorat. Non, même pas. Non, ils n'ont pas vu. Non, ils ont pas vu en vous un bon casse-croûte. C'est un concours de circonstances. Vous étiez sur la montagne de vautours, au-dessus de Saint-Ferréol. Oui. Il y a une colonie de vautours qui est installée depuis des années. Et donc, au moment, au-dessus de cette montagne, il y a quasiment en permanence des vautours en vol. Donc, vous êtes arrivé au sommet, vous avez ouvert votre boîte de pâté, et les vautours sont passés par hasard. Oui, mais ils ont tenu. Oui, alors ça c'est classique, c'est peut-être que le hasard a bien fait les choses. Il y avait un courant ascendant, une ascendance thermique qui se développait au-dessus de là où vous étiez, en sommet de falaise, surtout si c'est en fin de journée. Les falaises reflètent la chaleur qu'elles ont accumulée durant toute la journée. Et donc là, c'est un concours de circonstances, rien de plus. Voilà.
Ok, merci. Merci. Dernière question avant de conclure, on est quand même assez nombreux ici. Est-ce que vous pouvez chacun d'entre vous énoncer un petit pas, genre une petite chose que tout un chacun peut faire en faveur de la protection des oiseaux? Voilà.
Si vous avez un jardin, vous avez le bonheur d'avoir un jardin, plantez des plantes mellifères pour les insectes mellifères, qui cherchent à butiner. Et planter aussi des arbustes à fruits pour stimuler les granivores. Voilà.
Si vous m'autorisez un tout petit peu d'humour noir, chacun peut tuer son voisin et le mettre à disposition des vautours. Mais ouvrir une boîte de pâté aussi, mais... Mais si, non, je dirais pour compléter ce que vient de dire Yann, par exemple, quand on a un petit bout de jardin, un petit bout de terrain, avoir un point d'eau, notamment l'été, dans nos zones sèches, un point d'eau. Alors, il ne s'agit pas de vider les nappes phréatiques pour alimenter une mare, hein, mais un petit point d'eau gros comme une table, déjà, ça peut permettre à quelques insectes de se reproduire. Les oiseaux viennent boire. Ils sont comme nous, hein, l'été, ils ont chaud, ils ont besoin de boire. Ils ont besoin de se baigner aussi. Donc, ça peut être c'est un geste assez simple.
Je vais prendre un exemple peut-être un peu tiré par les cheveux, mais qui généralement, voilà, qui fait partie aussi de mon activité. Avoir connaissance quand on randonne en alpage, tout simplement, que l'on est sur des propriétés privées, qu'il y a sans doute des éleveurs qui viennent pâturer et qu'il faut respecter leur travail. Il faut savoir adopter de bons comportements en présence de chiens de protection. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Tout simplement parce que l'élevage dans nos régions, c'est une composante vraiment primordiale pour le maintien d'oiseaux vraiment rares. Ça maintient ce qu'on appelle des milieux ouverts sur lesquels les rapaces peuvent venir chercher de la nourriture.
Vas-y, prends le micro, s'il te plaît.
Pour les gens des piles, il y en a beaucoup qui coupent les arbres devant chez eux quand ils ont un petit jardin donnant sur la rivière parce que ça cache un peu la vue. Mais je pense qu'il est mieux qu'on fasse pas ça tous en même temps, la même année. Il faut garder des endroits, parce que les rossignols, ne serait-ce qu'eux, il y en avait déjà moins cette année que l'année dernière.
Ouais, non mais... Alors, tu voulais, vas-y.
Une question qui est importante aussi, je pense, parce qu'on a tous été confrontés une fois dans notre vie à un petit animal blessé qu'on ne savait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on trouve un animal blessé?
Il faut téléphoner le LPO local. Et après, on les amène dans des centres de soins. Ça peut être en Hautes-Alpes. Est-ce que Ticodrome, ça existe déjà dans la Drôme ?
Il y a un centre de soins également qui est basé à Cré et qui est géré par une association en lien avec la LPO Drôme. Juste pour dire qu'on n'est pas obligé, en général, les oiseaux tombés au nid, notamment tombés du nid, tombés au sol, on croit que ce sont des oiseaux blessés. C'est souvent des jeunes oiseaux qui sont tombés du nid. Les chouettes et les hiboux en particulier, notamment dans les villages, dans les maisons chez nous, on a le hibou petit duc qui tombe du nid, qui s'envole, qui quitte le nid avant de savoir voler. Donc l'idéal, c'est quand même de le placer dans un carton, de le mettre en hauteur dans un arbre à l'abri des chats. Et on peut les toucher, on peut les manipuler. Les oiseaux n'ont pas d'odorat. Donc, contrairement aux mammifères, là, quand on trouve un jeune mammifère, l'idéal, c'est aussi de le laisser sur place, un jeune lièvre, un jeune chevreuil. Sa mère, en général, n'est jamais loin. Par contre, à partir du moment où on le touche, on change l'odeur de l'animal et sa mère l'abandonne. Donc selon la nature de la découverte, un oiseau qui est réellement blessé, effectivement, on l'achemine vers un centre de soins. Si c'est un jeune oiseau, un poussin qui est tombé du nid, on peut aussi le remettre, si on ne trouve pas le nid, le remettre en hauteur déjà à l'abri des chats. Et en général, ça, c'est le bon geste à faire.
Et je précise qu'une autre manière de soutenir les oiseaux, c'est de soutenir les associations présentes. Donc l'ALPO, Vautour en Baronnie, je ne sais pas si le PNR... Non, le PNR n'a pas besoin de soutien. Et donc ça passe par les dons, ça passe par le bénévolat et ça passe l'adhésion et tout ça. Et je vous invite à avoir les flyers de Vautour en Baronnie et le site internet de l'ALPO. Voilà.
Juste une chose, donc si vous voulez, vous pouvez donner votre adresse email maintenant, si vous êtes proche de Nyons, parce qu'on fait régulièrement des sorties en groupe, donc on vous apprend à écouter les oiseaux et à voir des oiseaux, à déterminer les oiseaux. À peu près une fois par mois, il y a une sortie. Donc tous ceux qui sont sur une liste mailing de LPO, groupe local de Nyons, ils reçoivent donc les sorties, ils peuvent venir, ça coûte rien, et ils peuvent passer une journée agréable avec nous, ils emmènent le pique-nique et on va découvrir les montagnes ou la mer.
Et maintenant, pour les 5 dernières minutes, je vous propose un quiz. Il s'agit d'écouter les chants d'oiseaux qu'on n'a pas enregistrés nous-mêmes, mais qu'on a bien là présent, et de les deviner, nous en dire quelques mots si vous le pouvez.
Et s'il y a des gens, en dehors de la table qui reconnaissent des bruits d'animaux, enfin d'oiseaux surtout, n'hésitez pas aussi. Voilà.
Bah, allez-y, hein, si vous savez.
Oui, ben là, on entend le bruin, mais pas n'importe lequel. C'est ortolan. Le bruin ortolan.
Okay. Et c'est un oiseau qui vit dans nos montagnes
Oui.
C'est le fameux bruin. Allez-y, prenez le micro.
C'est le fameux bruin dont tout le monde raffole. Surtout Maïté, comme dit notre ami. Le bruit ortolan, on met une serviette sur la tête, on le mange entier parce qu'il les mettait dans des cages, dans le sud-est. Il les mettait dans des cages, il engraissait. C'est interdit maintenant, mais ça se fait toujours.
Merci de le préciser.
Oui, c'est interdit, mais ça se fait toujours.
Très, très,
très protégé. Et il engraisse dans des cages, c'est un petit oiseau comme un pinson ou... Un verdier.
Et pourquoi ils le mettent dans des cages pour l'engraisser?
Ben parce que pour les engraisser et puis pour attraper les autres.
Ah. C'est le seul passereau quand on le met dans l'obscurité dans une cage qui est capable qui continue de se nourrir et qui va s'engraisser, qui va manger par boulimie. Et donc c'est le seul passereau qui est capable de faire ça. Donc on le met dans le noir, on lui donne à manger au sol et il mange et donc il grossit, il triple ou il quadruple de poids en quelques semaines. Voilà, donc c'est effectivement un oiseau qu'on rencontre dans nos régions, qui fait partie des espèces, on va dire, en jeu, qui sont liées aux mosaïques agricoles, aux landes, aux petits buissons espacés, plutôt dans le sud de l'Europe, chez nous, plutôt en altitude.
Merci. Numéro 2.
Ça, c'est le loriot d'Europe. Un très bel oiseau, surtout le mâle, bien sûr, qu'il est plus coloré que la femelle. C'est un oiseau jaune, qui est délicieux. Enfin, pas par le goût, par le chant et la couleur. Je me rattrape pour tout à l'heure. Mais la femelle est un peu moins colorée, elle est plutôt verte. Mais c'est deux très beaux oiseaux. Et son chant, on l'entend, c'est difficile pour le voir. Hein. Qui niche ici. C'est un migrateur, mais il niche ici, dans les baronnies, vous devez l'entendre, surtout au bord des rivières.
Ce qu'on entend, c'est la perdrix grise qui... Et oui, qui habite dans les terres cultivées ouvertes, les friches, les prairies, qui est sédentaire, égrégaire et terrestre. Et voilà.
Et qui est une des espèces les plus rares en France maintenant, qui a disparu de la majorité des zones agricoles. Alors c'est une espèce qui a probablement jamais été présente dans les reliefs comme ici. Elle existe, il y a une sous-espèce qui existe dans les Pyrénées en haute montagne, la perdrix grise des Pyrénées, et en revanche elle a été présente dans les grandes plaines agricoles, les grandes zones ouvertes, mais qui a disparu du fait de l'agriculture intensive dont on a parlé plus tôt. Mais voilà, mais, moi c'est vrai que j'avais jamais écouté le chant de la perdrix grise, une bonne colle.
Ça ressemble à un mésange bleu, mais il a beaucoup de variations. Mésange bleu, oui, mais je ne suis pas sûr.
Mésange juppé ?
Mésange
juppé. Qui vit dans les forêts de conifères, qui est une petite mésange qui est très présente chez nous, aussi bien dès qu'on a des résineux, des pins, des pins sylvestres, pins noirs, pins d'Alep, et on a de la mésange juppé.
Alors, une, je sais pas.
Grive Litorne.
Voilà, pardon. Donc, du coup, tu passeras pas le pari des prix. Mince, on est au numéro.
Bon, c'est un piège aussi parce qu'il est ici présent qu'en hiver, donc il chante pas. Mais il niche donc dans le pays nordique scandinave. Et ici, non, mais c'est pas une faute, mais il est ici juste hivernant. Il mange des grives et il est chassé.
Et chassable.
C'est un gros bec casse-noyau.
Il a un nom rigolo, celui-là.
Ouais. C'est marrant parce que le gros bec, c'est un peu une des curiosités des baronnies cette année. C'est un oiseau qui est relativement fréquent en migration et en hiver dans la région. Et cette année, on a beaucoup d'observations depuis le mois de mai, juin, juillet. Tout l'été, on a eu des observations. Donc, il y a probablement eu une grosse reproduction de gros bec. Alors, c'est un passereau qui vient régulièrement au mangeoir l'hiver quand on donne des graines aux oiseaux, qui a un très gros bec qui peut casser les noyaux d'olive. D'où son nom. Par contre, malgré sa grande taille, hein, qui est pour un passereau, il est très grande taille, et très coloré. C'est un oiseau qui est hyper discret et qui va plutôt vivre en période de reproduction. Il vit plutôt dans le haut des arbres, dans les frondaisons. Et son petit chant coquin, là, comme on vient de l'entendre, là c'est à peu près impossible de le détecter s'il y a un concert d'oiseaux autour. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a raté durant toute la saison de reproduction dans la région. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gros becs maintenant, alors que normalement, il ne devrait pas y en avoir. Donc, c'est ce qui nous fait dire qu'il y a eu une sorte de petite invasion de gros becs ce printemps. Mais voilà. On l'a raté.
Alors, on va réécouter le gros bec casse-noyau. Ah, et on peut voir un héron qui va bientôt survoler le marché de producteurs. Un héron cendré, un magnifique vol de héron cendré, messieurs, dames, pour vous ce soir. Voilà. En voilà un qui est content de l'émission. Et le prochain son sera...
Serincini, non ?
C'est une fauvette mélanocéphale probablement, fauvette pitchou. Non. La passerinette ?
C'est la passerinette.
On est en train de passer alors.
Non mais il n'y a pas longtemps qu'on l'a entendu. Donc, ouais.
Donc on enchaîne sur, le sur l'avant-dernier. Là.
Non. Non, c'est Milan Noir, non? Milan Noir?
Donnez vos réponses au micro.
Bah, je dirais Milan Noir, excité par la femelle.
Le Jipette Barbu?
Oui, oui. Ah, le Jipette Barbu,
c'est le Jipette Barbu, oui. Dont on a parlé tout à l'heure.
C'est assez exceptionnel de l'entendre comme ça. On l'entend très très rarement. C'est des oiseaux qui sont plutôt silencieux, les vautours, le jipette aussi. Il va crier comme ça quand il est pas content de voir un congénère ou de voir un autre vautour autour de son nid. Mais c'est quand même très rare de l'entendre dans ces conditions-là.
Et le dernier? Oui, on a une proposition dans le public. C'est un Roland, me dit-on.
C'est un bipède.
C'est un bipède, un Roland bipède, oui.
Nicheur exclusivement aux piles. Et puis, ben voilà, nous arrivons au terme de l'émission et du quiz. Et puis ben, je vous remercie d'être venus tous. Ça a été un grand plaisir.
Merci pour l'invitation.
Ok. Alors, on va du coup clôturer ce studio radio pour donner la possibilité à tout à chacun de continuer ces discussions en dehors de l'enregistrement. Eh bien, merci beaucoup. On vous retrouverez l'émission sur le site internet d'Ensemble ICI et tous les contacts vers les associations et les informations pour pouvoir vous rejoindre le plus rapidement possible en cas de besoin.
Merci.
Voilà. Et ben merci beaucoup et très bonne soirée.
Ensemble, ICI. Radio Libre, la radio des initiatives.